Vincent Songeant.
On est là, on est là. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. On a du soleil, fait du bien. C'est froid par contre, et ça va rester froid. Minimum de moins 17 pour ce soir et cette nuit. Demain, maximum de moins 5 avec du vent. Résultat, moins 19 en matinée, le refroidissement éolien. Moins 12 en après-midi. Peut-être un peu de neige en fin de journée. Dimanche, c'est mieux. Maximum de zéro sous les nuages. Dans la circulation, Audrey, en ce début de fin de semaine.
Quelques affaires à vous dire. Peut-être commencer par vous dire que si vous êtes sur la capitale, direction Est, hauteur Robert Bourassa, c'est déjà installé. Ouest, hauteur Laurentienne, il y avait un accident tantôt, ça semble ramasser. Si vous êtes sur la 20, direction Ouest, hauteur Taniata, accident, ce qui fait en sorte qu'en ce moment, là, entre la route du président Kennedy et Taniata, c'est un vrai bordel. Mais ça risque de se dégager prochainement. Si autre chose, 88-971-102 texto.
C'est un sujet qu'on a traité dans la deuxième saison de podcast des grands événements qu'on aura le plaisir de vous présenter au retour de la fin de semaine de Pâques. On a enregistré plusieurs épisodes en direct dans le retour. Vous avez peut-être pogné ça au fil des dernières semaines. Et on a un épisode sur un triste chapitre du crime récent au Québec, la guerre des motards. On a eu la chance d'avoir avec nous autres notre chroniqueur régulier à Boulevard, ex-enquêteur Roger Ferland, toujours pertinent, toujours sympathique, encore très bon ce matin, si vous l'avez manqué, dans l'émission de Marceau. Ça va faire 25 ans demain qu'on lançait l'opération Printemps 2001. Une opération qui a été une rafle historique contre les Hells Angels. L'opération qui a peut-être mis fin à l'époque à la guerre des motards. Un excellent texte qui a été publié là-dessus dans la presse aujourd'hui. 28 mars 2001, Tom O'Neill, alors sergent à la Gendarmerie royale du Canada, est aux premières loges. Il arrive à 4 heures, il fait fret, il neige, il est au centre de coordination des mesures d'urgence de la SQ, rue Parthenay à Montréal. Il est aux commandes d'un groupe de 2000 policiers issus de 35 services différents. Ils réaliseront plus de 250 perquisitions et arrestations simultanément dans 70 municipalités. Puis la presse s'est entretenue justement avec Sergent O'Neill, qui était à la tête de cette opération-là. C'est 140 individus, il y a 25 ans, jour pour jour, qui ont été arrêtés.
Incroyable, pareil, hein?
Accusés de gangstérisme, de trafic de stupéfiants, de plusieurs meurtres. Certains sont membres des Hells Angels Nomads, dirigés par un certain Maurice Momboucher, ou des Rockers, un de leurs clubs écoles les plus actifs pendant la guerre. Et Sergent O'Neill raconte ça en disant « Moi, cette journée-là, c'est mon Super Bowl. C'est le Super Bowl de ma carrière. Tout s'est bien passé. Personne n'a été blessé. On est allé chercher presque la totalité des gens qu'on avait identifiés. Parmi ceux-ci, il y avait même un gars qu'on est allé chercher en Jamaïque, un membre des Hells Angels qui s'appelait Walter Stadnick. Il était en vacances dans un hôtel de Montego Bay. Puis Sergent O'Neill raconte à la presse, à l'époque, il n'y avait pas d'entente d'extradition avec la Jamaïque. L'agent de liaison de la GRC là-bas a fait des représentations auprès du ministre de la Justice de la Jamaïque, lui expliquant que le motard était accusé de 13 meurtres. Les Jamaïcains ont fait une exception quand ils ont vu que le cas était lourd. Ils ont arrêté Stadnick, nous ont demandé de venir le chercher le plus tôt possible parce que quelques mois auparavant, un Colombien s'était évadé avec l'aide de mercenaires. Fait que les gars étaient bien, bien nerveux puis ils disaient « Garde, on l'a votre gros poisson, là, mais venez le chercher avant que quelqu'un parte avec. » Printemps 2001, c'était le résultat de deux enquêtes principalement dirigées par la Sûreté du Québec avec l'apport de plusieurs corps de police, dont la GRC, le service de police de la ville de Montréal, entre autres. La première opération, on l'avait appelée « Rush ». Ça s'attardait à plusieurs meurtres commis pendant la guerre des motards et l'autre, appelé Océan, portait sur le trafic de cocaïne et le blanchiment d'argent. Donc, on menait toutes ces opérations-là de front. Ça a duré 3 ans, même plus, pour certains policiers à préparer des plans d'enquête, à faire de la recherche dans plusieurs dossiers, pour arriver avec la fameuse théorie du complot général pour les 13 accusations de meurtre. O'Neill dit, le sergent O'Neill, qui était à la tête de l'opération du printemps 2001, il dit « Pendant ces 3 années-là, on s'est isolé de nos familles, mais aussi de la communauté policière. On ne pouvait rien dire à nos collègues pour ne pas éventer l'enquête. Et après la frappe, des collègues de la GRC m'ont dit « On se demandait ce que vous faisiez pendant 3 ans, puis on n'en avait aucune idée. » C'était vraiment des gens, puis il y en avait beaucoup, qui travaillaient en vase clos. L'opération printemps 2001, qui n'a pas été parfaite, la vie de motard étant ce qu'elle est, l'agent d'infiltration et membre des Rockers, Danny Kane, s'est enlevé la vie, lui, en août 2000. C'était supposé d'être un témoin majeur qui s'était mis à table. Le sergent O'Neill dit que le décès inattendu les a laissés dans une position où les procureurs nous ont dit « Vous avez un beau dossier de renseignement sans plus parce qu'on n'avait plus assez de preuves tangibles à ce moment-là. » Mais le vent a tourné. Les enquêteurs ont fait 2 gros moves. Le premier, ils ont trouvé la cache d'argent des Hells Angels, où ce qui pilait tout le cash, c'était sur la rue Beaubien, des millions de dollars qui transitaient là, selon ce que les agents ont constaté sur leur caméra cachée. On a beaucoup parlé du rôle crucial joué par Danny Kane pendant l'enquête printemps 2001, mais vous savez, le monde du crime, ça fait en sorte que quand des gens sont visés par une tentative de meurtre, il y en a qui commencent à avoir plus peur qu'avant. Et c'est arrivé avec l'ex-femme du trafiquant de drogue assassiné, Raymond Craig, une dame qui s'appelle Sandra Elena Antelo. Elle a déballé tout ce qu'elle savait aux policiers après avoir été elle-même visée par une tentative de meurtre en 2000. Fait qu'on a perdu un témoin clé pour en gagner un autre, ce qui a probablement sauvé le procès. Puis c'est son témoignage à elle qui a permis de relier Maurice Momboucher, Michel Rose et André Chouinard à la cache de millions de dollars de la rue Beaubien parce que physiquement, il n'avait jamais été vu là. Donc, à partir de ce moment-là, on a pu faire l'association entre la comptabilité et l'argent qu'on voyait passer dans la cache et les membres des nomades. C'est quand même spécial quand tu vois que pendant des années et des années, on a préparé cette opération-là. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait donné les méga procès.
Il n'y avait pas construit aussi une aile de prison
exact.
Pour pouvoir tenir le procès à cet endroit-là pour éviter le voyagement?
Oui, on avait tellement arrêté de monde d'un seul coup que si on voulait éviter l'influence ou si on voulait éviter les révoltes en prison ou ailleurs, ben il a fallu faire les choses différemment. Puis effectivement, c'est des choses qu'on avait faites spécialement pour ces grands procès-là. Par contre, 14 ans plus tard, la méga enquête Shark, avec 156 accusés, a fini en queue de poisson devant les tribunaux.
Shark, queue de poisson.
Oui, c'est ça pareil. Bien des observateurs affirment qu'on ne verra plus jamais d'enquête d'une telle envergure. Souvenez-vous, avec les délais et tout ça, les avocats avaient réussi à faire libérer un paquet de gens.
Il y avait eu des arrêts Jordan qui étaient rentrés là-dedans.
Oui.
On est dans le même timing des premiers arrêts Jordan.
Puis le sergent O'Neill dit « C'est pas impossible qu'on refasse des grandes séries d'arrestations comme ça, mais ce serait très difficile aujourd'hui de reproduire le succès qu'on a eu. Je ne sais pas si le système judiciaire sera en mesure d'accepter un dossier aussi important dans son modèle actuel. La lourdeur de notre système vient du fait qu'on veut protéger les gens qui n'ont rien à se reprocher, mais en même temps, cette lourdeur-là vient pratiquement barrer le chemin de la justice pour des gens qui sont coupables. C'est un choix de société qu'on a fait, mais je crois qu'on devrait réviser le système pour retrouver un équilibre qui actuellement est rompu. Je sais que c'est à côté du point, mais pensons à la commission des libérations conditionnelles cette semaine, ce qu'ils ont fait vivre à une pauvre famille où je devrais dire restante famille, parce que l'essentiel de cette famille-là a été fauché par un chauffeur ivre qui lui a obtenu des permissions pour aller voir sa propre famille alors que sa sentence n'est même pas terminée. Mais c'est quand même triste de voir que des années de travail avaient permis un méga procès comme celui-là, une grande série d'arrestations, puis on ne serait pas capable de refaire la même chose aujourd'hui. C'est les 25 ans de l'opération Printemps 2001 en fin de semaine. Et dans quelques semaines, si le dossier de la guerre des motards vous intéresse, on a vraiment fait un beau tour avec un raconteur hors norme, notre ami Roger Ferland, dans le podcast des grands événements. On vous dira quel soir on va le présenter puis à partir de quand il sera disponible là, sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et ainsi de suite.
C'est fou parce que tu sais, d'un coup d'envergure comme celui-là, ça pourrait laisser penser « Hey, ils ont fait le ménage! » Sauf que tu sais, tant que tu as une clientèle, il y a des besoins.
Ben oui.
Puis il y a une roue qui se replace. Puis tu sais, à Québec depuis 2 ans. Puis tu sais, d'ailleurs, si aujourd'hui c'était l'anniversaire, entre guillemets, de l'arrestation de Dave Picturmel, là, qui devrait être rapatrié incessamment. Il est toujours en Italie. Non, c'est pas moi qui le ramène la semaine prochaine. Je suis pas là. Je m'en vais pas là incognito. Ça n'a pas de rapport, non.
T'es pas investi d'une mission pour la société.
Absolument pas. Mais tu sais, quand t'as pu les moteurs qui ont été arrêtés, même si après ça, il y en a plusieurs qui ont été libérés pendant le cours des procédures, t'as d'autres mécanismes qui se mettent en place.
Exact.
C'est l'équivalent de couper la tête puis qui en repousse plein d'autres.
Ben oui, puis on le savait. Je veux dire, quand il y a eu le procès pour la prostitution juvénile, ça faisait même pas 2 ans que c'était terminé, puis déjà la roue avait recommencé à tourner de façon tragique au Québec. Tant qu'il y a de la clientèle et qu'il y a de la demande, ben il y a quelqu'un qui va offrir le produit, qu'il soit légal ou non, malheureusement. Il est 14h56, début de week-end. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Gravel.